Celle-là, on l'avait pas vu venir. C'est une circulaire qui a été relayée par le Premier ministre Sébastien Lecornu qui demande à ses ministres de procéder à des tests de dépistage dans les ministères, tests de dépistage drogue.
Des tests salivaires inopinés et obligatoires jusqu'au sommet de l'État. Et le Premier ministre a montré l'exemple puisqu'il a lui-même procédé à ce test. A priori, le test est négatif. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas les résultats. Parce qu'on n'a pas les résultats. C'est-à-dire qu'il y a des tests, mais on reste un peu sur notre faim. On ne sait pas précisément qui est positif, qui est négatif. En tout cas, les préfets, comme les ministres ou leurs collaborateurs seront donc soumis à ces tests anti-drogue, l'histoire ne dit pas si l'Élysée est concernée. Donc on commence par les fonctionnaires et peut-être bientôt les salariés du privé. L'idée, développée par Matignon, c'est à terme de rendre obligatoire ces tests pour certaines professions du secteur privé, notamment pour les métiers à risque.
Alors est-ce que c'est une bonne chose de dépister dans les ministères et les fonctionnaires et puis peut-être dans les entreprises? 32-16 pour en parler avec les juges, avec les grandes gueules, Flora.
Bah, moi, j'ai surtout...
Toi qui as travaillé à l'Élysée.
Ouais.
Sous François Hollande.
Ouais, quoi, si je me faisais visiter à l'époque, il se passait quoi? Bah, j'ai justement deux questions.
Pas toi, mais est-ce que tu te dis si on avait fait ces contrôles, on aurait eu des surprises, de mauvaises surprises?
Ah, bah, ça, c'est sûr, ouais. Et surtout, j'ai deux questions. La première, c'est combien de temps ça reste dans le test salivaire? Est-ce qu'il faut passer de drogué sur les dernières 24 heures, sur la dernière année, enfin, ça change, les trois dernières années, enfin, ça change tout. Je crois que dans les cheveux, on peut voir sur des mois et des mois, par exemple, les traces, voilà. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est les drogues dures? Est-ce que c'est le cannabis? Si c'est,
la cocaïne surtout, je pense.
Bah, j'en sais rien, en fait. C'est pas très clair tout ça, mais si c'est le cannabis, enfin, bon, moi, vous le savez, au GG, je suis pour la légalisation du cannabis.
Stupéfiant, tu mets tout derrière stupéfiant. Parce que c'est ça, hein, la circulaire. C'est lutter contre la consommation de stupéfiants.
Ouais, mais en fait, à un moment, il faut, je vais dire un truc politiquement incorrect, mais il faut de la transparence sur cette situation.
Ça te choque pas, c'est un conseiller de Matignon.
Économique et fiscal. Bah, non, enfin, déjà que les pauvres, ils travaillent jour et nuit, nuit et jour.
Oh, les pauvres.
Bah, non, mais en fait, ceux qui connaissent des politiques comme moi savent très bien que
ils ont besoin de ça.
C'est des humains et que non, c'est pas ça. Ah bon. C'est que c'est des humains et qu'ils ont le droit de. Un jour, je parlais avec un ami. Il est connu, donc je vous dirai pas qui c'est, qui a été appelé plein de fois pour faire de la politique. Et je lui dis mais pourquoi tu te lances jamais? Et il m'a dit parce que j'aime trop fumer des pétards le week-end. Bon bah voilà. Aujourd'hui, on peut pas faire de politique.
On veut savoir qui c'est.
Bah, oui. Non. Là maintenant, on veut savoir qui c'est.
C'est quelqu'un qui est à gauche.
On peut. Effectivement, on peut pas faire de. C'est
non, parce que les pétards, ça te ramollit, et du coup, après, tu en veux aux autres pour ta propre loose.
Et donc, du coup, tu es à gauche.
Non, mais je veux dire, à un moment, moi, je trouve ça ridicule. Après, il faut être très ferme sur les drogues dures.
Tu penses qu'il faut détecter uniquement les drogues dures, c'est ça?
Oui, et puis. C'est pas, je pense qu'il faut accompagner les personnes qui tombent dedans.
Est prévu.
Parce que c'est des maladies aussi. Hein,
ce qui est prévu, l'idée développée par Matignon, c'est effectivement une fois qu'on voit qu'il y a un collaborateur qui se drogue, on va l'aider à s'en sortir. Il pourrait être sanctionné, mais il y aura aussi des soins à proposer. Mais
parce que l'histoire, c'est quoi? C'est que dans le cabinet de Lecornu, il y a eu un collaborateur qui a fait une overdose. C'est ça l'histoire. Mmh. Donc je comprends qu'ils soient tous traumatisés. Ce serait totalement normal.
Ah, ça part de là.
Ça part de là.
Ou alors. Il se rend compte que tout le monde est défoncé dans son cabinet, que personne travaille, qu'il se passe rien.
Ce qui explique des choses, d'ailleurs.
Ce qui explique des choses, il dit, mon gars, dépistez-moi tout le monde, parce que c'est pas possible, quoi.
Moi, permets-moi d'avoir une pensée d'abord pour Jacques Maillot, qui, toutes ces années qu'il a été aux grandes gueules.
Qui nous écoute, on l'embrasse.
Et qui a appelé à avoir un gouvernement resserré. Peut-être que c'est la solution pour avoir un gouvernement resserré, parce que finalement, il faudra être clean, et plus sérieusement, il me semble que c'est un préalable, quoi, en fait. Il me semble que c'est un préalable quand tu conduis la destinée de l'État de pas être défoncé, quoi. Et l'idée d'aller jusqu'à la détection des drogues sur des gens qui ont des métiers à risque. Je pense à toutes les professions du volant. Je pense aux gens qui travaillent avec des engins. Je pense, enfin, à mon avis, c'est quand même un préalable, quoi. Je vois pas comment tu peux être efficace au boulot défoncé, quoi. Ça, j'arrive pas à comprendre. Et puis après, plus largement dans le débat de société, moi, je suis désolé, on peut pas verser des larmes de crocodile et puis faire des marches blanches à chaque fois qu'il y a une balle perdue dans un quartier qui tue un innocent. Et puis laisser faire les consommateurs jusqu'au plus haut sommet de l'État, sans jamais jamais s'attaquer aux consommateurs. Et je trouve que, pour une fois, le politique qui montre l'exemple au reste de la société, ça me paraît être une bonne mesure. Ah,
surtout que c'est lui qui dicte les lois, donc ce que l'on attend
donc, c'est une
de
bonne
ceux
idée.
Qui édictent les
c'est
lois,
c'est une bonne idée.
Qu'il soit exemplaire.
Et moi, je suis
même.
Prêt à me soumettre quand vous voulez.
En tout cas, il doit y avoir beaucoup pas de collaborateurs tests, mais... ministériels stressés ce matin. Quand ils ont vu l'info passer, oui. Ils doivent se dire, merde, c'est quand le test, ça vérifie sur
combien de temps ça marque dans la salive. Il y en a qui doivent se la poser, la question.
Hein. Je rappelle qu'il y a là, il y a un magistrat de Bobigny du parquet qui s'est fait sanctionner parce qu'il prenait de la méthamphétamine, de la 3-MMC et du GBL.
Pour les
il y a Laurent Vallée, l'ancien président de l'INA, vous vous souvenez de ce scandale. Ouais. Il avait acheté pour 600 euros de cocaïne. Ouais. Comment ensuite il a dû démissionner? Qu'est-ce qui s'était passé? Bah, les policiers suivaient un vendeur de 17 ans, vendeur de cocaïne. Il chope le vendeur et dit « qu'est-ce que tu viens de faire ?» Il dit « je viens de vendre combien ?» « Je viens de vendre 100 grammes. 100 grammes !» À qui ? Donne-moi ton portable, montre-nous, et vous sortez de chez le patron de l'INA.
Toujours été compliqué avec les présidents de l'INA.
Qu'est-ce que tu en penses, Charles ? Moi, est-ce que c'est bien de tester les ministres choses. Et les fonctionnaires ? Mais alors après, il y a la question, est-ce que ça doit être rendu public ou pas ?
Il y a aussi ce député insoumis. Monsieur Carbrat,
il y a un élu LR de la région Centre qui est mort après une soirée Chemsex récemment.
Donc ça concerne.
Ça a été un drame.
Moi, je m'en fous que ça soit pas public, mais qu'on les mette hors d'état de nuire.
Je pense qu'il y a,
Bonne idée ou pas ?
Oui, parce que il y a en réalité une espèce de coquetterie maintenant un petit peu qui consiste dans les soirées parisiennes chic. Et de la part de gens qui ont des grosses responsabilités, ça vaut pour le gouvernement, mais ça vaut aussi, moi je connais des cas, pour la magistrature par exemple, pour les hauts gradés de la police, pour ce genre de personnes, il y a une espèce de frisson à consommer de la drogue dans les soirées chic parisiennes parce que ça fait chic, et parce que ça fait qu'ils transgressent.
Quelle drogue ?
Cocaïne essentiellement, parce que le cannabis c'est un truc de gauche. Moi je vous parle des trucs de droite. C'est rare qu'on accède à un haut poste de responsabilité quand on fume beaucoup de cannabis. Ça, il faut dire les choses. Donc en général, on finit pas haut gradé ni dans la police ni dans la magistrature ni au gouvernement. Donc essentiellement cocaïne, voire drogue type kétamine, etc. pour les plus fêtards et les plus bons. Et moi je pense tout simplement déjà un. Cette coquetterie, etc., est grotesque. Deux, il faut choisir. Soit on lutte contre les narcotrafics, et dans ce cas-là, on pénalise y compris les consommateurs, soit on ne lutte pas contre les narcotrafics, mais il faut choisir. Et troisièmement, je pense que autant tout le monde a le droit d'avoir une jeunesse, autant quand vous êtes en responsabilité dans un gouvernement, dans un tribunal ou autre, moi je trouve que vous devez choisir. Soit vous faites ça, et dans ce cas-là, vous vous tenez correctement, et notamment, vous n'avez pas de pratiques illégales qui vont contre ce que vous professez, soit vous faites un autre métier. Après tout, personne n'est obligé d'être ministre, conseiller, etc. On peut parfaitement être baba cool, intermittent.
Donc ça veut dire que ces tests, il faut les faire aussi dans la police.
Oui.
Dans la magistrature, chez tous les fonctionnaires qui ont, chez les profs, etc.
Mais puis on peut mettre le privé dans les métiers à risque. Hein. Le mec qui emmène les gamins dans un bus scolaire, moi, je serais pas.
Déjà le cas, notamment pour les employeurs de conducteurs de car, le font, etc. Mais effectivement, on peut élargir le grutier. T'as plutôt envie qu'il soit clean. Enfin voilà, il y a plein de métiers. Mais
les accidents du travail, si tu regardes. Enfin,
mais là le problème,
pas tout, mais à la MSA, les accidents du travail, ils trouvent des trucs quand même. Hein.
Elle n'a pas tout à fait tort de dire qu'il y a un grand paradoxe. On est le pays où il y a le plus grand nombre de consommateurs de cannabis d'Europe. Donc c'est comme si c'était déjà légal en fait, en quelque sorte, puisque 5 millions, c'est quotidien, bon, c'est énorme. Donc à la fois on tolère ça, puisqu'on voilà, on voit bien que les amendes contre les consommateurs, ça fonctionne pas. Et de l'autre, on veut être implacable. Et à mon avis, il va falloir choisir. Soit effectivement, on dépénalise pour le cannabis et on s'intéresse qu'aux drogues dures.
Et comme ça, on peut mettre tous les moyens sur les drogues dures qui sont très dangereuses.
Sauf que vous oubliez quand même un truc dans l'équation, c'est qu'il y a des quartiers en France, parce qu'il y a du trafic de cannabis, il y a plus un flic qui rentre, les gens ils vivent avec la trouille, il y a
trafic,
les balles perdues,
il y a plus de trafic justement.
D'où le besoin de légaliser.
Enfin, la base de ça, c'est quand même le cannabis. Quoi, hein.
Oui,
il y a les gamins qui sont déscolarisés.
Oui, si tu légalises.
Justement, si tu légalises, tu auras plus ce problème-là. Et il y a un autre problème.
Si tu légalises, est-ce que ça emmène pas les gens vers d'autres trafics?
Il y a deux problèmes. Le premier, c'est le cannabis sur les mineurs. Le cannabis est très très mauvais quand on n'a pas le cerveau suffisamment mature. Donc quand on commence à 13, 14 ans, 12 ans, comme c'est le cas, c'est surtout des dommages cérébraux qui sont irréversibles, et notamment des maladies mentales comme schizophrénie, bipolarité, etc. Donc ça, c'est très dangereux. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est très incompétent pour contrôler les mineurs.
La conduite aussi.
Si on pouvait le rendre légal pour les majeurs, on aurait des leviers pour contrôler les mineurs qui serait beaucoup plus efficace, comme en Espagne. Si en Espagne, vous avez parrainé un mineur pour acheter ou vous avez donné un mineur, vous êtes banni comme au casino, vous n'avez plus jamais le droit de rentrer dans un coffee shop et donc vous n'avez plus jamais le droit d'acheter pour vous-même. Donc je peux vous dire que les majeurs, ça les freine dans leur envie de donner aux mineurs. Donc ce serait un levier efficace. Le deuxième sujet, c'est la conduite au volant. Et là, je suis d'accord qu'il faut beaucoup plus de contrôle. Après, il y a un deuxième sujet qui n'a rien à voir, c'est la drogue dure, la cocaïne, la 3MMC dont on parle beaucoup.
Moi, je suis pas d'accord avec cette
il faut juste savoir qu'il y a beaucoup de gens, c'est une prise et ils tombent dans la maladie, ils tombent dans l'addiction. Ouais. Une prise.
Ouais, parce que donc, derrière, tu cherches à retrouver la sensation que tu as vu la première
on
fois.
On va sortir le problème du cannabis, d'accord, qu'on va pouvoir se.
Mais d'abord, la cocaïne, il est scientifiquement prouvé qu'en réalité, elle est psychologiquement addictive pour certains, mais physiquement, elle est beaucoup moins addictive que la cigarette.
Comme le tabac.
Le tabac, c'est
le maximum d'addiction.
Charles, on légalise la cocaïne
ou que le cannabis. Le maximum. Le plus gros fumeur du monde, il est maximum addict au tabac 8 jours physiquement, 40 ans psychologiquement.
Bon. Et en tout cas, oui, enfin, quelqu'un qui est accro au tabac, il voit bien qu'il a envie de fumer une clope. Hein. C'est aussi simple que ça. Et moi, je suis désolé, je vois les ravages du cannabis et je suis opposé à cette complaisance par rapport au cannabis. Je sais qu'on a beaucoup de concitoyens, compatriotes qui en fument, mais j'observe que ça ne fait du bien à personne. Voilà. L'alcool, regarde, la consommation d'alcool recule énormément. Et plus mal.
Oui.
Les jeunes boivent beaucoup moins qu'avant.
Oui, mais l'alcool fait autant de mal que le cannabis.
Donc si les gens boivent moins, c'est pas une raison pour les inonder de cannabis.
Moi, les grands libéraux qui veulent la liberté partout et à tout prix, ils me fascine parce que dès qu'on est sur des sujets où on pourrait faire avancer les politiques publiques sur la santé et sur les addictions, d'un coup la liberté les intéresse plus.
Ce que tu nous dis, Flora, c'est que c'est très grave pour les très jeunes adolescents, mais il y a rien qui dit que quand tu fais appliquer et tu fais voter les lois, c'est pas grave d'avoir 10 joints dans la tête, quoi. Hein. Enfin, il y a un moment donné, même si c'est pas sur la santé que c'est grave, c'est quand même grave pour la société.
Aujourd'hui,
quoi.
Tu commandes sur Snap, 10 minutes après, t'es livré n'importe où sur le territoire français. 20 minutes après.
Ça gêne pas dans la conduite de ta fonction, quoi. Même si ça te détruit pas le cerveau, c'est quand même un frein à la conduite de ta fonction correctement, quoi. Hein.
Vous venez en parler avec les GG puisque le débat est lancé. Dans un instant, on sera avec Samir, notre ami de la fonction publique du côté de Rennes.
Samir, le test arrive.
Julien, qui est contrôleur SNCF, il est dans les Ardennes. Est-ce qu'il faut tester tout le monde?
Ça y va chez les contrôleurs.
C'est la circulaire Le Cornu, il va tester les employés des ministères. Est-ce qu'on doit tester dans le privé aussi? Et qu'est-ce qu'on fait si jamais on s'aperçoit qu'un collaborateur est sous drogue? 32-16 pour en parler avec Laurent Gueule, il est 9h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
On va reprendre dans un instant notre discussion là sur le dépistage de la drogue dans les ministères, dans les entreprises. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose de le généraliser? Mais en attendant, attention, on a encore des buts qui ont été marqués à la Coupe du Monde. Et sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde, vous savez qu'on a la prime de match à vous faire gagner. Et la prime de match, vous connaissez le montant de la prime de match? 67 500 euros à gagner.
Grâce notamment à Angleterre-Croatie, il y a eu 6 buts.
Ouais, vous vous inscrivez en envoyant but par SMS au 732-16. But par SMS au 732-16. Ensuite, il y a un logiciel qui tire un numéro de téléphone. On va vous appeler avant 18h. Il y aura un coup de fil avant 18h et il faudra donner le montant exact de la cagnotte. 67 500 euros. Cette prime de match, elle est pour vous exonérée d'impôts puisque c'est du gain de jeu. Donc écoutez bien, mettez-vous le chiffre, notez-le en tête. 67 500 euros. coup de fil avant 18h dans l'un des shows d'RMC et peut-être dans les grandes gueules tout à l'heure. C'est pas nous qui maîtrisons
le
coup de fil, mais surtout ce qu'on souhaite, c'est que ce soit gagné 67 500 euros. Il suffit d'envoyer but par SMS au 732-16 pour faire partie de ceux qui potentiellement seront appelés. On revient à notre discussion là maintenant sur les tests salivaires des ministères, des fonctionnaires dans les entreprises, les tests pour trouver ceux qui se droguent. Samir, qu'est-ce qu'il en dit ? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Bonjour Samir.
Ouais, bonjour, salut les grandes gueules.
Alors, qu'est-ce que tu en penses ?
Moi, bah, comme je disais hors antenne, c'est que nous, à la RATP, ça se faisait. Et quand le premier qui se faisait contrôler le matin, il envoyait un message sur les groupes WhatsApp. Et bizarrement, il y avait la moitié qui venait pas travailler déjà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je pense que ça devrait être fait dans toutes les entreprises, contrôle inopiné. Parce qu'aujourd'hui, dans les métiers, moi, par exemple, là, je repars dans la fonction publique en tant que conducteur de car.
Oui, tu étais VTC avant, on s'était vu à Rennes.
Je te dis même pas combien de nombre de VTC qui sont sous alcool et sous produits stupéfiants dans la journée. Des animateurs, quand j'étais animateur, elle en parlait tout à l'heure Flora, des joints, ça vient le matin, ça fume, normal un joint pour après s'occuper des gamins. Il y a un moment donné, il faut les tester et les virer, c'est tout.
Ce que vous êtes en train de dire, Samir, c'est que ça va être un massacre. C'est-à-dire quoi?
C'est bien, on va faire des économies.
À côté de ça, il faut prendre en compte que le jour où il y aura des contrôles sur les groupes WhatsApp, ça va parler, la moitié ne viendra pas avoir plus, et il y en a qui vont se faire virer, mais à tour de bras. Donc soit on légifère, comme elle a dit Flora, mais moi je suis pas pour la légalisation du cannabis, soit on légifère, mais après...
Bah, ouais, mais tu fais quoi, Samir ? T'es en train de nous dire que finalement, autour de toi, t'as tout le temps vu des gens fumer, qu'est-ce que tu fais si tu les lourdes ? T'as plus personne, alors ?
Ouais, mais moi je suis anti-drogue, non, comme elle a dit Flora, la bipolarité...
Et c'est quoi les drogues consommées dans votre branche, dans votre fonction publique ?
C'est-à-dire
Vous dites que la moitié vient pas bosser s'ils savent qu'il y a un test.
C'était du cannabis, Samir ?
Positif à quoi ?
Charles, je vais te dire une chose. Là, si les gens de la RATP m'entendent, ils vont savoir. Il y a un mec, un jour, il a eu une agression dans le bus. Il n'a pas pu faire la lane discrète parce que juste avant de repartir de son terminus, il a tapé un rail là où on prend les tickets. Là où on met les tickets de bus, là. Le mec, donc, il était au taf. Il y a de toutes les drogues.
Un conducteur de bus ?
Un conducteur de bus à la RATP. On fait comment ?
Oui, mais attendez, moi, puisqu'on a un avocat, moi, je voudrais savoir si tout ça, quand même, est bien légal. Parce qu'une fois qu'on a attrapé la personne, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle la police,
Je pense que, je pense qu'en tout cas.
L'animateur, par exemple, de périscolaire, dans son contrat, il n'y a pas marqué ne pas fumer du cannabis.
Il y a des règlements intérieurs où les produits stupéfiants, ce qui influe ton discernement, c'est une faute grave, hein.
Oui, mais il y a beaucoup de travail, il y a marqué. C'est une faute.
Alors, je ne suis pas spécialiste, je pense qu'on est quand même censé venir travailler dans un état normal.
Oui, mais tu sais très bien.
Non, mais bien sûr qu'il y a débat.
À mon avis, il y a débat.
Il y a vie privée, il y a tout ça. Si par exemple, si tu n'es pas objectivement défoncé au moment où on te fait le test, mais si simplement ça montre que deux jours avant, tu as fait une soirée raclette qui a dégénéré, c'est pas forcément répréhensible. Mais de toute façon, moi, dans le privé, je vais vous dire, autant je pense que, encore une fois, quand on fait le choix de s'engager dans un métier public, etc., dans la fonction publique, surtout dans certains corps de la fonction publique, si on est au gouvernement, si on est dans la police, si on est dans la magistrature, etc., je trouve que là, on fait un choix. Et dans ce cas-là, on doit quand même faire attention à ce qu'on fait, y compris dans sa vie privée, si ça entre en contradiction directe avec ce qu'on professe et ce à quoi on travaille toute la journée. En revanche, un paysagiste qui se défonce le soir chez lui, moi je suis pour la pénalisation de la consommation de drogue, mais ça le regarde davantage que si c'est un membre du gouvernement.
Et surtout, tu risques de transformer le chef d'entreprise en délateur. Et je suis pas sûr que les patrons, ils ont envie de jouer ce rôle-là. Les fliquer leurs salariés matin, midi et soir.
Imagine jusqu'où on va. Mais juste pour aller dans le sens de Samir, il dit que le conducteur de bus, il prenait un rail à l'endroit où on achète les tickets. Moi, j'ai vu un article passer qui montre que dans la plupart des, vous savez, dans les toilettes publiques, il y a des tables allongées, dans les toilettes de restaurant ou de station-service, les gens prennent leur rail sur les tables allongées parce que du coup ça leur fait comme un comptoir et donc on trouve des traces de poudre sur les tables allongées.
Voilà. Faut faire attention quand on change son bébé maintenant, faut nettoyer juste avant, sinon tu auras ton bébé sous speed, après tu comprendras pas pourquoi. Samir, je te remercie d'avoir été dans les GG, merci d'avoir donné tous ces exemples, Samir. À bientôt, c'est pas très rassurant, à bientôt dans les grandes gueules. On a Julien, contrôleur SNCF. Bonjour Julien.
Bonjour les grandes gueules.
Est-ce que vous êtes testé à la SNCF ?
Alors c'est marrant parce qu'il y a 15 jours, nous, la direction, on est arrivé un matin avec les éthylotests et les tests à l'hiver et nous ont fait tous tester les présents en fait. Donc,
et alors, ça a donné quoi?
Bah, j'ai pas eu les résultats, mais en tout cas, je pense que moi, d'après ce que je vois avec les collègues, on est vraiment très sérieux. Ça a l'air un peu plus sérieux que chez Samir. et c'est vrai qu'ils font super attention, nous les contrôleurs et surtout les conducteurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si une personne vient se jeter sur les rails, par exemple, ah ben, il est responsable. Et on a beau fumer ou boire...
C'est la première chose qu'on fait quand il y a un suicide.
Exactement. Donc en fait, ils sont super attentifs à tout ça et tant mieux.
Donc vous, ça vous gêne pas, Julien, d'être testé, quoi?
Non, mais je trouve que c'est normal.
Mais autour de vous, il y a beaucoup de gens, je sais pas, qui prennent des stupéfiants, qui fument, Julien,
autour
ou pas?
Autour de nous, c'est-à-dire la SNCF ou...
Ouais, dans votre entourage, boulot et perso.
Non. Moi, je suis anti-drogue aussi, pareil que Samir, anti-drogue, anti-alcool, occasionnellement, lors des soirées, mais jamais comme ça. Et je trouve que les mœurs ont beaucoup changé, évolué. Ouais. Au sein du travail, parce qu'avant c'était apparemment
notamment avec l'alcool.
L'alcool c'était horrible. Ouais. Apparemment c'était très dangereux.
Ouais, dans tous les métiers, hein, parce que je peux vous dire que dans les rédactions journalistiques, il y avait toujours 2-3 alcooliques. C'était quand même. Maintenant c'est moins le cas.
Dans les restos routiers.
Ouais.
Dans les restos routiers, il y a 30 ans, les mecs ils étaient au rouge à midi.
En général, ils faisaient la sieste dans la cabine avant de reprendre le volant quand même.
Oui, bien sûr.
Allez, c'est des gens responsables. De rouge, oui.
Non, mais c'est vrai, ça ait changé, mais
bien sûr, c'est abusé.
Je reste persuadé que les professions de volant, tout ce qu'a des engins, oui, c'est quand même des choses obligatoires.
On ne dépiste pas tous les produits anxiolytiques, les médicaments que beaucoup de gens prennent.
Et qui sont...
A priori, il y a des contre-indications. Mmh. Enfin, on n'est pas forcément obligé de les suivre. Enfin, il n'y a pas de contrôle là-dessus.
Le pilote qui avait crashé son avion de la Germanwings dans les Pyrénées.
Il est dépressif. Non, il pas dans les Pyrénées.
Il était sous antidépresseurs. Ben voilà. Or, on sait que les antidépresseurs, un, désinhibent, deux, peuvent rendre suicidaire. Ça arrive que ça fasse l'effet inverse. Et moi, franchement, il n'y a pas
de... Ou t'endormir aussi, qui n'est pas forcément une bonne chose.
D'accord, mais l'antidépresseur, il est prescrit par un médecin pour t'aider, pour te soigner.
Mais ils en prescrivent à tout le monde. T'as mal à la tête, on te prescrit des antidépresseurs.
C'est pas la même chose, si tu veux, que de prendre la 3
MMC. Mais ça, c'est banalisé, les antidépresseurs.
Mais je trouve que c'est un vrai...
D'ailleurs, la France, c'est le pays qui consomme le plus de psychotropes.
Il y a un professionnel qui te dit quel médicament prendre, quelle dose, et en théorie, c'est pour soigner.
En fait, ça fait 20 minutes qu'on parle de est-ce qu'il faut contrôler la drogue, pourquoi les gens se droguent. Il faudrait peut-être se poser la question de pourquoi les gens se droguent et pourquoi les gens prennent des antidépresseurs et pourquoi les gens fument des joints.
Pourquoi la France est un pays
dépressif ? Pourquoi les gens boivent de l'alcool ? Bah peut-être pour oublier leurs conditions. Et c'est quoi leurs conditions aujourd'hui ? C'est qu'on est dans un système qui rend pas heureux et épanouit les gens.
10 minutes de
germinal. Non, c'est pas du misérabilisme. Je suis désolée. On n'est pas dans un système
qui est très en Pologne ou en Roumanie.
Alors déjà, c'est pas ce que je dis et c'est pas parce qu'on vit mieux ou plus mal d'un point de vue stricto sensu économique que ça fait plus ou moins de dépressif. Peut-être que justement on vit tellement bien qu'on cherche du sens et qu'on ne sait plus trouver le sens dans le travail.
La moindre personne qui s'emmerde à son boulot, qui ne s'entend plus avec son mari, qui s'est fait plaquer par sa meuf, il va voir un psychiatre qui, au terme d'une consultation de 10 minutes facturée 100 euros, lui prescrit 6 mois de traitement sous antidépresseur.
Je ne vous souhaite pas de faire des dépressions et de découvrir que ce n'est pas une flemme ou
que c'est une maladie. Mais il y a un excès.
La dépression, c'est une maladie comme le cancer est une maladie
Je ne te dis pas qu'il n'y a pas de vrai dépressif, je te dis qu'il y a des... excès en France sur la prescription d'antidépresseurs et d'anxiolytiques.
Je pense pas, si tu veux, qu'aujourd'hui, je comprends ton raisonnement. T'en as qui peuvent prendre des produits stupéfiants pour oublier leur mal-être, leur malaise, leur dépression, quoi que ce soit. Mais je pense pas que tous ceux qui sont dans les ministères, ce soient les plus dépressifs du monde non plus, si tu veux. Tu vois, c'est pas forcément pour oublier leurs conditions. Je pense que c'est plutôt à ce moment-là pour s'amuser, pour déconner, parce que comme le disait Charles tout à l'heure aussi, ça fait chic. Et tu sais aussi, je vais te dire pourquoi aussi.
Il y a la mode du chemsex.
Parce qu'en plus, t'as le sentiment d'impunité. Quand tu travailles dans les ministères ou quoi que ce soit, tu dis, il va rien m'arriver. tu vois, et donc tu prends un malin plaisir à dire venez les gars, maintenant on va dans la salle des fêtes ou dans le truc, on s'en met une bonne race là, on se met une bonne dose et tu dis il peut rien m'arriver.
On sent qu'il y a donc, du véhicule là, hein.
On sent qu'il y a du véhicule. Alors, là, les gars, envoyez les tests. Le seul show où vous pourrez me trouver peut-être positif, c'est Gevrey-Chambertin.
Je vois Gevrey-Chambertin.
Allez, on se prend pour Napoléon maintenant. On a merci à Julien.
Avec modération.
On a Christophe qui est avec nous. Bonjour Christophe.
Bonjour, bonjour.
L'ami Pizzaiolo Christophe, c'est ça ?
C'est ça.
Qu'est-ce que vous en dites, Christophe ? Alors, est-ce qu'il faut tester tous ceux qui travaillent
sur les pizzas, Christophe ?
Je dis que ça sert à rien.
Pourquoi ?
Je dis que c'est complètement inutile. Bah. En fait, déjà, quand on va tester à l'hiver, c'est juste pour contrôler s'il y a du cannabis ou pas, quasiment. C'est même pas pour les vérifier s'il y a des drogues dures, si péroïne, s'il y a des anxiolytiques, comme vous disiez, ou des antidépresseurs, ou si les mecs, ils ont des gammes AGT à gogo dans les veines. Personne, ça va le vérifier. Donc, en fait, c'est un petit peu la chasse au cannabis. Je plante dans le pain.
Fumez-vous ? Vous fumez, Christophe ?
Oui, je consomme.
Avant d'aller au travail, pendant le travail ?
Non, dans mon canapé, le soir, devant la télé, après le boulot, pour décompresser.
Et ça vous met pas en difficulté pour faire une 4 fromages ?
Non, du tout. Elles sont même magnifiques, les 4 fromages. On va bien les goûter, d'ailleurs.
J'aimerais bien, tiens. Envoyez-nous une 4 fromages.
Si vous pouvez le faire par la poste, je le ferai.
Et une pizza ananas pour Alain.
Mais Christophe,
Christophe,
vous fumez tous les soirs ?
Christophe, défoncé, ça n'a pas la même conséquence qu'un mec qui vote la loi ou un mec qui conduit un bus défoncé.
C'est justement à ça que vous allez revenir.
Sauf si Christophe prend le volant pour aller rejoindre sa pizzeria.
Mais c'est comme si Christophe il prenait une charge de, je sais pas, trois verres de whisky le soir en rentrant à la maison. Quoi. C'est exactement pareil.
Déjà, Christophe commence à parler de lui à la troisième personne, ce qui est un début de schizophrénie.
On dirait Charles Goncini.
Qu'on peut détecter. Hein. Moi, c'est parce que j'ai fumé à 12 ans, du coup, je me prends pour De Gaulle. Tu vois les ravages de la drogue.
Tu vois le problème.
Christophe, autour de vous, beaucoup de gens fument ou pas ? Vous avez 44 ans, je rappelle. Allez-y. Et Christophe, il est parti s'enrouler. Christophe, vous êtes là ?
Christophe.
Il n'aime pas qu'on le coupe.
Bon. Non, mais Christophe, c'est intéressant parce que dans le milieu de la restauration, la drogue, parlons-en aussi. Quand Charles dit la cocaïne, c'est un truc de riche, aujourd'hui, c'est plus vrai du tout.
Il y en a dans
tous les milieux. Et il y a aussi des alternatives moins chères comme la 3MMC qui est connue. Mais maintenant, il y a plein de drogues de synthèse. Faut connaître.
Le comté.
Il y a tout un jargon.
Moi, j'ai eu des témoignages.
Et il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les prix.
Les gens en prépa. Où t'as une pression du résultat, où t'as des heures de travail phénoménales.
La coke.
Ils sont tous à la coke. Et je pense que.
À la coke ?
Pour tenir le truc, quoi. Oui. Les gens qui sont en prépa, que ça soit médecine,
les prépas
qui sont les plus durs.
Les agriculteurs dans le monde agricole.
Je crois que les agriculteurs, ils sont quand même plus au rouge et au ricard
J'avais une enquête où justement
c'est possible.
Commencer à gagner les campagnes et pour c'est tenir.
Mais parce
rythme,
que c'est dans les métiers durs, pour tenir le rythme. Je vois pas du tout ça au quotidien, mais je vais pas
dans
dire
la
que c'est
Bresse,
impossible.
On m'a dit par exemple.
Dans la Bresse. Dans la Bresse, ils se mettent poulet dans les veines.
Ils se shootent au poulet.
Et au maïs, au troquis.
Il y a des très grosses addictions.
On a François qui va conclure notre discussion. Je remercie Christophe d'avoir été avec nous. Il est chauffeur routier. Bonjour François.
Oui, bonjour.
Bonjour François. Et je sais pas, dans votre profession, ça fume, ça prend des trucs pour pouvoir tenir le rythme ou pas ?
Alors c'est simple, moi quand je disais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut pas rouler plus de 9 heures par jour, et deux fois dans la semaine, on peut taper 10 heures de roulage par jour, comme on dit. Au bout de 4h30, on a le droit à une coupure de 45 minutes, obligatoire. Mais ce que je disais aux standardistes, moi personnellement, dans mon contrat, il est écrit que si je ne respecte pas le code de la route, je suis viré. Si je bois de l'alcool, je suis pris, donc test d'alcoolémie au volant du camion, je suis viré. Si
pour faute grave sans procès.
Considéré comme une faute grave. Ouais. Donc, je sais pas, souvenez-vous un petit, je sais plus qui c'est qui habite aux alentours de Nice.
C'est moi, chef.
Voilà. Ça vous dit rien, le bus à Plan du Var il y a quelques années de ça ?
Je me souviens pas là, pardon.
Non, bus il montait la route de Grenoble, la 202, à Plan du Var, et ben il a tiré directement gauche avant d'arriver au pont de chemin de fer, il a fini sur la voie ferrée, positif à la cocaïne, un bus scolaire. Donc à un moment donné, moi
il y a eu des
victimes. Il y a eu des enfants qui ont été choqués, il y a eu des blessés, il était positif à la cocaïne et comme par hasard, après, ils ont mis en place les tests salivaires.
Mais vous êtes contrôlé, vous ? Vous avez des tests salivaires, François, dans votre profession ?
Nous, on doit se plier aux réglementations du client. C'est-à-dire que moi, par un exemple tout bête, j'arrive dans une cimenterie, parce que je charge des palettes de ciment. Tu arrives dans une cimenterie, il y a une cimenterie, je dirais pas le nom, ben, aléatoirement, ils font les tests. On est obligé de s'y plier. Et moi, je trouve que c'est tout à fait normal. On va pas prendre un camion qui fait 44 tonnes sur la route en étant complètement défoncé.
On est d'accord.
Voilà, donc moi, pour moi, les tests...
Je pense que tout le monde n'a pas votre déontologie, hein, François.
François, dans les camions, on se demande quand même.
Oui, mais François, tu vois, il est
responsable. Mais c'est normal, c'est normal.
Il essaie de se doubler, notamment.
C'est pas une question de déontologie ou quoi, c'est une question que si on fait ce travail, d'accord, c'est soit par passion, soit pour remplir le frigo, enfin, pour n'importe quelle raison, mais il y a des règles à respecter. Tu respectes pas les règles, tu te fais virer.
Vous êtes merci François d'avoir été dans les GG, c'est vous qui aurez conclu notre discussion. Bonne route François, à bientôt.
Merci à bientôt.
D'avoir été dans les grandes gueules. Donc on est parti de la discussion sur Sébastien Lecornu, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir si aujourd'hui vous êtes prêts à ce qu'on soit tous testés, je sais pas, dans le privé, tous les salariés. Oui ou non, on va regarder ce que vous en pensez. Ben, vous êtes quand même pour oui, il faut tester les salariés à plus de 60%.
Oui, mais ça veut dire qu'il y en a 37% qui flippent là.